Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La peine de mort. Mercredi dernier, le pape François, à l'occasion d'un colloque sur la nouvelle évangélisation, a lancé: aussi grave que soit le crime commis, la peine de mort est inadmissible parce qu'elle porte atteinte à l'inviolabilité, et à la dignité de la personne humaine. Une manière de confirmer ou de finir de définitivement confirmer la position de l'Église catholique sur le sujet. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation de la peine de mort dans le monde et sur la manière dont les chrétiens essaient de se mobiliser auprès des autorités publiques contre ce fléau, mais aussi auprès des condamnés à mort. Cette émission Vivante Église ce matin, peine de mort, état des lieux, avec autour du plateau Anne Denis, ou par téléphone, responsable de la commission peine de mort à Amnesty International. Bonjour.
Bonjour.
Autour du plateau, le père Marcel Borier, recteur de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro. Et le père Arthur Deleff, curé de Montastruc. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, j'ai un tout petit peu menti dans mon introduction, parce qu'on n'interroge pas seulement les chrétiens et leur mobilisation sur cette question, mais aussi donc des membres d'Amnesty International, cette ONG bien connue. Peut-être avant toute chose, et avant de parler de l'action d'Amnesty International, est-ce que vous avez une réaction, Anne Denis? Est-ce que vous avez entendu parler de ces propos du pape François, et quelle réaction vous avez eue du côté d'Amnesty International?
Oui, tout à fait, puisque j'ai donné une interview à la Croix, donc à ce sujet. Nous sommes toujours très heureux de voir que l'abolition de la peine de mort conquiert de nouveaux espaces. Et nous savons par exemple qu'aux Philippines, alors que le président Duterte veut rétablir la peine de mort, l'Église catholique est très mobilisée là-bas. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle.
Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que pour vous l'affaire était entendue du côté de l'Église catholique ou pas tout à fait?
Cela ne m'a pas vraiment surpris, parce que ça l'a déjà fait un petit moment que effectivement l'Église catholique manifestait son refus de la peine de mort.
Voilà, donc j'ai cité un passage en introduction, hein, et on pourra en citer d'autres au long de cette émission, à l'occasion donc de cette intervention mercredi de la semaine dernière, je le disais, à l'occasion d'un colloque du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. C'était pas tout à fait un colloque pour la nouvelle évangélisation. Décidément, cette fin de semaine, 2-3 erreurs dans cette introduction. Merci de votre mansuétude. Alors, la peine de mort dans le monde. Il y a, quand on se penche sur le sujet, des chiffres effrayants. Est-ce que vous pouvez nous dire, en 2016, quelle a été la situation, si on peut dire, de la peine de mort dans le monde, Anne Denis?
Donc, en 2016, on a au moins 1032 personnes qui ont été exécutées dans 23 pays. Naturellement, dans ces chiffres, on ne compte pas la Chine, puisque depuis 2009, Amnesty International ne donne plus de chiffres sur la Chine, étant donné que la peine de mort est un secret d'État en Chine. On sait qu'en Chine, il y a plusieurs milliers d'exécutions par an. Donc, en fait, il y a eu deux pays de moins qui ont exécuté, et il y a moins d'exécutions qu'en 2015.
C'est-à-dire moins d'exécution. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu une évolution, je ne sais pas, sur 5, 10, 20 ans, quels sont les chiffres, sont évolués comment?
Depuis quelques années, on est toujours autour du millier, toujours en dehors de la Chine. En 2015, on a eu une année particulièrement noire, puisqu'on était à plus de 1600 exécutions.
Est-ce que vous pouvez nous dire, à travers le monde, quels sont les pays où il y a le plus d'exécutions? J'ai cru comprendre que 4 pays réunissaient à eux seuls 87% des exécutions recensées. Quels sont-ils? Qui sont ces pays?
Alors, donc, toujours hormis la Chine, bien sûr, ces pays sont l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan. Et pour la première fois en 2016, les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait partie du palmarès.
Qu'est-ce que ça veut dire dans ces différents pays? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de situations plus particulières? Est-ce que les modes d'exécution aussi, ou de condamnation, sont différents? Racontez-nous un peu les situations plus particulières de ces 4 pays.
Oui, il faut savoir qu'en Iran, si vous voulez, si on se rapporte à la population de l'Iran, ce pays est le premier exécuteur dans le monde. En Iran, en Arabie Saoudite, vous avez des condamnations essentiellement pour meurtre, bien entendu, mais essentiellement aussi pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, ce qui est donc en violation des normes internationales. Vous avez aussi des condamnations à mort pour apostasie, pour adultère, pour viol, pour inimitié à l'égard de Dieu, ainsi que le définit le code pénal islamique, c'est-à-dire que...
Ça veut dire quoi, par exemple ? Quelle situation peut provoquer ?
Précisément, c'est très souvent appliqué à des personnes qui sont opposants au gouvernement ou qui veulent réclamer plus de liberté dans leur pays pour leur minorité ethnique ou religieuse. Ainsi, en Iran, on voit des Kurdes sunnites condamnés à mort pour inimitié à l'égard de Dieu. Et en Arabie Saoudite, on voit des chiites condamnés pour la même raison.
Vous voulez dire que c'est une manière pour les gouvernements, en fait, de faire condamner les gens que de les accuser de la sorte, c'est ça ?
Voilà, c'est une manière très, très pratique.
Alors, à part ça, donc, vous citiez donc, l'Arabie Saoudite et...
L'Irak, en Irak, c'est essentiellement pour des faits de terrorisme. Et alors, le Pakistan, c'était un peu spécial, parce que le Pakistan, jusqu'en 2014, était en sous-moratoire, c'est-à-dire qu'il n'exécutait pas. Et il y a eu un très gros attentat à Peshawar. Et le Pakistan a donc fait une loi immédiatement et réintroduit la peine de mort pour fait de terrorisme. Donc fin 2014, ils ont exécuté une ou deux personnes pour fait de terrorisme. Mais en 2015, ils ont exécuté toute une série de personnes pour meurtre de droit commun. Et donc là, c'était une manière pour eux de vider un peu leur prison, puisque en fait, il y a approximativement 8000 personnes dans les couloirs de la mort au Pakistan.
Vous avez cité tout à l'heure la Chine. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails qui fait que Amnesty International et d'autres n'ont pas de chiffres ? Pourquoi en fait ? Parce que c'est difficile. On imagine qu'en Arabie Saoudite, ça ne doit pas être simple non plus d'avoir des informations. Donc pourquoi est-ce que la Chine est aussi opaque ?
Mais la Chine, c'est spécial. C'est comme au Vietnam, c'est un secret d'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout parler de la peine de mort. En Arabie Saoudite, on arrive à avoir certains chiffres. On donne toujours des chiffres minima, puisque on n'a pas de certitude dans ces pays-là d'avoir la totalité des cas d'exécution. En Chine, cependant, jusqu'à il y a peu, la Chine ne donnait aucun chiffre. Alors, ils ont dit dernièrement qu'ils ils voulaient introduire un peu de transparence dans leur manière d'appliquer la peine de mort, et ils ont mis en place un site sur Internet qui relève quelques cas d'exécution. Bien entendu, cela ne correspond absolument pas à la totalité des cas d'exécution ou de condamnation à mort.
Alors, avant qu'on parle des pays dits occidentaux ou civilisés, enfin, c'est sous ce jargon parfois qu'on les regroupe, qui sont concernés par la peine de mort et par des exécutions capitales, peut-être pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a des pays où il y a une inflation récente ? Vous signaliez tout à l'heure les Philippines, et entre autres donc suite à la présidence de Duterte. Est-ce qu'il y a des pays où de fait on constate comme ça une inflation un peu inquiétante ?
Alors en Philippines, la peine de mort est toujours abolie, hein, les Philippines ont signé des traités internationaux qui normalement les empêchent de revenir en arrière. Ce que je signale là, c'est que le président Duterte a souhaité réintroduire la peine de mort, et particulièrement pour les infractions liées à la législation sur les stupéfiants, et a fait voter une loi à la Chambre des représentants. Cette loi est en ce moment à l'étude au Sénat, et c'est là, je pense, où effectivement le plaidoyer des évêques des Philippines est très important. Les autorités religieuses catholiques des Philippines font un gros travail, effectivement, pour que cette loi ne passe pas.
Alors, si c'est pas les Philippines, donc merci de la précision, est-ce qu'il y a des pays, de fait, où il y a une inflation très inquiétante, et si oui, quels sont-ils ?
Alors, On a eu ces derniers temps en Arabie Saoudite effectivement une augmentation l'année dernière en 2015 et en 2016 on a à peu près les mêmes chiffres. On a au minimum plus de 150 exécutions par an. L'Iran c'est un peu variable, mais ce qui est quand même remarquable c'est que en 2015 il y a eu une très forte augmentation d'exécutions essentiellement pour des faits de terrorisme. Et ce que je vous ai dit sur le Pakistan était là une des causes de l'augmentation du nombre d'exécutions. Cependant, dans les autres pays, si vous voulez, par exemple en Afrique subsaharienne, on a en 2016 une baisse des exécutions. Donc il faut faire attention parce que en 2016, on a eu beaucoup moins d'exécutions, mais plus de condamnations à mort, alors qu'en 2015, on avait beaucoup d'exécutions et moins de condamnations à mort.
Alors, pour les pays dits civilisés, il y a les États-Unis où il y a eu, vous citez dans une carte Amnesty International de juillet 2017, 20 exécutions donc, pour l'année 2016 et 3 au Japon. Pour finir, ce sera ma dernière question avant qu'on fasse une première pause. Est-ce qu'il y a de plus en plus de pays abolitionnistes? Et si oui, c'est pareil, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à regarder dans le rétroviseur? Je sais pas, depuis l'après-guerre, quelle est l'évolution en fait sur cette question?
Alors j'attendais cette question avec impatience parce que quand même Amnesty vient de fêter ses 40 ans de lutte pour l'abolition de la peine de mort. En 1977, il y avait 16 États qui étaient abolitionnistes pour tous les crimes. En 2017, ils sont 105. Donc vous voyez qu'il y a quand même une drôle de progression. 105 abolitionnistes pour tous les crimes, 7 abolitionnistes pour les crimes de droit commun, 29 États abolitionnistes en pratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exécuté depuis plus de 10 ans, et il reste un noyau un peu compact là de 57 États qui ont toujours la peine de mort dans leur code.
Merci beaucoup Anne-Denis de ce point, ce point terrible, de ce point donc sur l'état de la peine de mort dans le monde. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos invités pour creuser les déclarations du pape François de mercredi dernier, puisque donc l'Église est contre la peine de mort, mais là semble-t-il, elle franchirait encore un pas plus important. C'est l'occasion de faire le point sur ce sujet. Thank you.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission Vivante Église, peine de mort, état des lieux, avec autour du plateau Anne Denis, responsable de la commission peine de mort à Amnesty International, qui était avec nous au début de cette émission. Le père Marcel Borier, recteur de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, et qui est là, on va dire, comme volontaire de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et qui a correspondu, qui correspond depuis quelques années avec un condamné dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Il nous en parlera à la fin de cette émission. Et le père Arthur Delef, donc curé de Montastruc, qui m'a été vendu par le diocèse comme de Toulouse comme un moraliste et donc capable d'intervenir sur cette question. Alors on va revenir à la déclaration du pape François. Je n'ai pas son intégralité, c'était donc, je l'ai déjà dit au début de l'émission, mercredi soir de la semaine dernière à Rome, lors d'un colloque du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il a donc dit entre autres « Aussi gros, aussi grave soit le crime commis, la peine de mort est inadmissible parce qu'elle attente à l'inviolabilité, je vais y arriver, et à la dignité de la personne. » Et puis le pape, un peu plus loin, a dit, a jugé que cette problématique... Enfin, je citerai le passage plus tard. Peut-être, première précision, c'est vrai que moi, quand j'ai vu la une de la croix, peine de mort, le pape dit non, ma première réaction a été, père Arthur Delef, d'être un peu étonné, parce que je me suis dit, ah bon, l'Église n'était pas encore au clair sur ce sujet. Alors, est-ce que j'imagine que j'ai pas été le seul à avoir eu cette réaction? Qu'est-ce que vous diriez d'abord de cela?
Oui, certainement, vous n'avez pas été le seul à avoir cette réaction. Voilà, ça paraît une sorte d'évidence au fond, on va dire chez les chrétiens, en tout cas en France, parce que c'est moins vrai. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis ou dans des pays où la peine de mort existe, où finalement les chrétiens aussi, les catholiques, se sont positionnés de manière parfois un peu différente.
D'ailleurs, le pape François en avait parlé quand il avait été aux États-Unis.
Tout à fait.
Voilà, on l'attendait sur la question de l'avortement, ouais. Et en fait, il avait parlé de la peine de mort.
Exactement, et ça avait beaucoup surpris, en fait. Et notamment, en réalité, les Américains avaient cité le catéchisme de l'Église catholique qui semble légitimer, dans certaines circonstances, on va dire un peu extrêmes, la possibilité de la peine de mort. Donc, en réalité, le positionnement du pape semble aller un petit peu plus loin, effectivement, pour dire non, il n'y a jamais d'exception.
Alors, peut-être peut-on rentrer dans le vif du sujet. Quelles seraient les motivations dans ces cas-là du pape François? Je ne sais pas, c'est le fruit, comme Amnesty International mène des campagnes internationales abolitionnistes, est-ce qu'il y a des gens dans l'Église qui, depuis des années, mènent des campagnes abolitionnistes ou pas?
Alors, moi, je ne pense pas que ce soit dû à une problématique de, on va dire, d'idéologie ou de pensée de fond. La pensée de fond, l'Église, je pense qu'elle n'a pas bougé. On est beaucoup plus sur une problématique de contexte. Où on le voit en France, typiquement, on va dire, l'opinion des Français sur une possibilité de restaurer la peine de mort a tendance à augmenter du fait d'un climat de peur et de colère. En fait, si vous voulez, la peine de mort, vous voyez, pour faire entre guillemets l'avocat du diable, si je me place avec comme le président des Philippines, quand je vois des enfants de 10 ans qui sont exploités, tués par des gens qui vont vendre de la drogue, qui vont détruire des vies, etc., il y a un moment, je suis dans la colère et je fais tout ce que je peux et j'y arrive pas et je dis, eh ben zut, ces gens-là, ben, il y a un moment, tant pis, quoi. Voilà. Et donc,
en considérant qu'elle a un effet dissuasif, ça c'est vrai que c'est une question que j'ai oublié de poser.
Exactement. En considérant qu'il y a un effet dissuasif, et puis en disant, voilà, c'est plus possible. Il faut être clair que notre société refuse ces situations-là. Et finalement, quand il y a une extrême violence dans les faits, eh bien, finalement, il faut que la justice aussi soit crédible dans un monde hyper violent, qu'elle donne pas le sentiment d'impunité. Par exemple, hein, vous voyez. Et donc, on voit cette colère qui monte dans un certain nombre de pays, et notamment dans les pays occidentaux, du fait du radicalisme islamiste, par exemple, qui fait que des gens disent, bah oui, mais là, on est dans des situations extrêmes. Vous voyez, comme au Pakistan, comme dans d'autres pays sans doute. Et puis il y a la peur, voilà. La peur et la colère sont les deux, on va dire les deux sentiments qui nourrissent un désir de peine de mort. Et je pense que le pape a des paroles qui sont très importantes aujourd'hui, non pas dans le contenu théologique qui, je pense, n'a pas forcément beaucoup évolué, mais dans un contexte lourd où il faut rappeler sans cesse, non, l'homme est toujours une dignité inaliénable.
Dans un contexte d'hyperviolence, puisque le pape François ne cesse de répéter que nous sommes dans une troisième guerre mondiale par morceaux.
Tout à fait.
Peut-être juste à propos de la peine de mort, je n'ai pas pensé tout à l'heure, enfin on n'a pas forcément peut-être eu le temps aussi, à demander à Anne-Denis de parler de la déclaration de Stockholm, qui est semble-t-il une déclaration majeure sur ce sujet, et qui entre autres, donc paraphée par un certain nombre de pays, si j'ai bien compris, et qui dit entre autres que l'effet de dissuasion de la peine de mort n'a jamais été démontré. Alors c'est peut-être un débat, mais en tout cas c'est ce que dit cette déclaration importante. Si on revient au catéchisme de l'Église catholique, alors que dit, peut-être en quelques mots, rappeler ce que c'est que le catéchisme de l'Église catholique pour ceux qui n'en sont pas familiers, et que dit-il dans son article 2267, et qu'est-ce qui pourrait évoluer, Père Arthur Deleff?
Alors, donc le catéchisme de l'Église catholique, on va dire que c'est un livre qui cherche à, de manière claire, formel, structuré, cherche à retransmettre le mieux possible le cœur de la foi chrétienne, le cœur de la foi catholique. Voilà. Et donc d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller régulièrement le consulter parce qu'il est très bien fait, ce catéchisme. Voilà. Et ce catéchisme, il a été réécrit régulièrement de manière à être adapté à une société donnée. Et donc, le catéchisme que nous avons actuellement date de 1997, la dernière version, voilà, où il y a eu des tout petits changements par rapport à celui d'avant. Donc c'était en gros sous l'époque de Jean-Paul II. Alors donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait...
Vous pouvez le citer, hein, allez-y.
Oui, d'accord, je le cite, je le lis. Donc,
sur la peine de mort en tout cas.
Exactement. « L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, alors il faut bien écouter, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'êtres humains. »
Donc, ouais. Première chose, elle n'interdit pas, mais dans des circonstances exceptionnelles, le recours à la peine de mort aujourd'hui.
C'est
là-dessus donc le pape François voudrait avancer.
Exactement.
Alors, cette réserve, quelle était-elle dans ces cas-là? Je répète, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur sur la vie d'être humain, ça veut dire quoi?
Alors, voilà. En fait, si vous voulez, dans la notion de peine de mort, en fait, c'est important de distinguer deux éléments. Le premier, c'est, on pourrait dire, peine de mort comme punition. La personne, elle a posé un acte tellement grave qu'elle ne mérite plus de vivre. Ça, c'est la notion de punition. Et donc, on la condamne à mort. Là, l'Église, en tout cas, ça fait très longtemps, je vais dire presque depuis toujours, on va dire ça comme ça, depuis toujours, l'Église estime que non, il n'y a jamais un acte suffisamment grave pour être pour condamner la personne à disparaître. Voilà. Et on pourrait citer la Bible dans plein de domaines, et notamment le livre d'Ézéchiel qui dit, où c'est Dieu qui dit, ce n'est pas la mort du pécheur que je cherche, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc l'Église refuse complètement cette notion de punition. Par contre, elle a eu une évolution sur la notion de protection. Je pourrais faire une espèce de situation limite juste pour que nos auditeurs le perçoivent. Vous voyez, imaginez-vous, au XIVe siècle, vous êtes dans un petit village. On a la guerre de 100 ans. Les gens meurent par centaines. On a la peste noire. Il y a entre un tiers et la moitié de la population qui a disparu. Les gens meurent de faim dans la rue. Vous avez une responsabilité de vous occuper d'enfants, par exemple. Et là, vous avez un psychopathe. Vous l'avez attrapé. Qu'est-ce que vous allez en faire
de psychopathe, c'est un anglais en l'occurrence ou c'est...
Non, c'est un... Non, mais vous voyez, quelqu'un qui est quelqu'un qui est dangereux, voilà, qui est profondément dangereux, qui peut tuer des gens. Vous n'avez pas le moyen de le mettre dans une prison, de le nourrir dans des conditions décentes. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, moralement parlant, on reste toujours dans ce que dit le pape François, à savoir, tout doit être fait pour sauver la vie de cette personne-là parce que sa vie est inaliénable. N'empêche que moi, j'ai des enfants à sauver. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la question de la peine de mort apparaît non pas comme une punition, mais comme un enjeu de protection de l'enfant. Et je suis dans une situation limite. Et donc là, je tombe dans le cas du catéchisme.
Alors, vous me disiez en préparant l'émission que peut-être on peut refaire un tout petit peu d'histoire. Hein. Oui. On va la faire à très gros traits, cette histoire. Non. Mais que dès les débuts de l'Église, en fait, ceux qui avaient la capacité de donner la mort en fait, du temps de l'Empire romain ne pouvaient pas devenir chrétiens. Vous pouvez nous rappeler ça ou pas ?
C'est ça. En fait, donc, l'idée, si vous voulez, en fait, il y a plusieurs temps dans l'histoire de l'Église. Le premier temps, clairement, ça vient de l'Évangile. Quand Jésus nous dit « celui qui vit par l'épée périra par l'épée voilà, », on ne peut pas être chrétien et donner la mort. Et donc, effectivement, pour être baptisé, eh bien, il fallait, si on avait un métier dans lequel on pouvait facilement donner la mort, eh bien, on vous demandait de quitter votre métier. Et c'était absolument radical. Voilà. À partir du moment où l'Église a été reconnue, progressivement, elle s'est retrouvée responsable de peuple entier. Et à ce moment-là, la question a été posée de manière cruciale, un peu comme je l'ai mis tout à l'heure, mais avec d'autres situations diverses.
Parler des Anglais, c'est ça ?
Sans parler des Anglais, que j'aime beaucoup. Voilà, des situations diverses où il fallait protéger les gens. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas les moyens de mettre quelqu'un en prison, une prison à vie, que je n'ai pas les moyens de protéger d'autres personnes ? Voilà, qu'est-ce que je fais ? Et on voit l'Église qui fluctue sur cette question-là, avec en permanence deux courants. Un courant qui est, on va dire, un courant abolitionniste d'une certaine manière, de certains nombre de saints, de papes, d'évêques qui disent non, on ne veut pas intervenir sur ces. Et donc, souvent on disait livrer au bras séculier, vous savez, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. C'était l'Église qui disait moi, je ne veux pas donner la mort. Après, je considère que la personne est coupable, mais du coup, je le remets à l'État qui en fait ce qu'il veut, mais moi, je ne donnerai pas la mort. Vous voyez, donc il y a bien eu cette résistance de l'Église à cette tentation, mais il y a eu d'autres évêques qui parfois ont dit oui, mais encore une fois, pour protéger, parfois, il faut aller jusque-là.
Est-ce qu'il y a eu des excès ? Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, alors c'est peut-être un inconscient pas justifié, mais l'Église aurait parfois soutenu certains États dans ce type de législation.
Alors là, on va distinguer l'Église-institution, qui a quand même eu un discours qui était assez équilibré toujours, et l'Église, on va dire, des gens d'un pays, dans une culture donnée. Et là, effectivement, il est arrivé régulièrement qu'il y ait des excès. L'Église, alors je cite le pape François, l'Église n'est pas un musée de saints, c'est un hôpital de campagne pour pêcheurs. Donc oui, dans l'Église, il y a toujours eu des gens, et il y en a encore maintenant, des gens qui ne sont pas tout à fait à la hauteur, c'est certain. Maintenant, on peut repérer quand même que, historiquement parlant, l'Église a toujours résisté, disons, aux tentations populistes, on va dire ça comme ça, avec du coup parfois des choses très injustes. Par exemple, la notion des sorcières qui sont brûlées, etc. C'est pas tellement dans l'Église catholique. Voilà, c'est dans d'autres sphères. Mais l'Église catholique a été effectivement sollicitée pour faire tout un tas de procès. Mais en l'occurrence, dans 90%, 80%, faudrait regarder, mais 80, même peut-être 95% des cas, eh bien, elle a plutôt protégé la personne qui était mise en danger.
Et pardon de vous poser la question, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui se la posent. Quid de l'Inquisition ? Est-ce qu'il y a eu des situations dans cette période où, de fait, les prisonniers étaient après exécutés quand ils n'étaient pas... tués tout de suite, et ce par ordre de l'Église.
Oui. Alors, Effectivement, l'inquisition, c'est un vaste sujet. On va dire que d'abord, il faut distinguer les inquisitions. Il y a des inquisitions qui sont des inquisitions d'État, comme l'inquisition espagnole, qui était très violente, et puis l'inquisition de l'Église. Il faut repérer que l'inquisition a été, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, hein, qui a été un progrès dans la, on va dire, dans tout l'arsenal juridique, avec la possibilité d'avoir des avocats, la possibilité d'avoir, de pouvoir porter la contradiction, la notion d'enquête. Inquisition, ça veut dire enquête. En fait, jusque-là, il n'y avait pas forcément une enquête. Voilà, avec des juges formés, etc. Donc il y a eu une forme de progrès. Après, il y a eu des excès, c'est évident. Ils sont plus faibles que ce qu'on en dit. Voilà, je cite, c'est juste pour un historien qui dit, dans les trois premiers mois de la Révolution française, il y a eu plus de gens tués que dans toute l'Inquisition sur les 8 siècles dans l'ensemble du monde. Voilà. Maintenant, voilà, une seule personne, c'est déjà trop.
Précision faite. Qu'est-ce que toujours dans cet article de La Croix, pardon, je le cite, mais de fait, il est vraiment bien fait. Mmh. En date du vendredi 13 octobre, il est dit que Jean-Paul II aurait déjà posé des premiers pas, mais ne serait pas allé jusqu'au bout de cette démarche que là le pape François fait. Alors qu'est-ce que Jean-Paul II avait fait, Père Arthur Deleuf?
Oui, Jean-Paul II, si vous voulez, il avait repris la doctrine de l'Église traditionnelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a lu dans le catéchisme, à savoir la peine de mort comme punition, jamais, la peine de mort comme protection de personnes en danger, oui, mais dans des cas un peu extrêmes. Et donc Jean-Paul II va un peu plus loin en disant, là je pourrais aussi citer le catéchisme, aujourd'hui, en effet, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer efficacement le crime, etc., etc., voilà, aujourd'hui, les cas d'absolue nécessité n'existent pratiquement plus. Voilà. Mais donc, vous voyez, il dit, oui, c'est possible d'être en situation limite, mais aujourd'hui, ça n'arrive pratiquement plus.
Et pourquoi ça arriverait moins qu'avant ?
Alors parce que heureusement, si vous voulez, on est dans une société qui est beaucoup plus construite, beaucoup mieux structurée, avec une justice indépendante des États, avec des moyens financiers, économiques, etc.
Ça, c'est le cas dans les pays occidentaux, mais c'est...
C'est ça. Alors, mais malgré tout, même, on va dire, à l'ensemble de la planète, globalement, on est quand même dans un progrès sur ces questions-là.
Pour finir, je voulais avec vous qu'on parle donc ce à quoi il faut s'attendre, c'est que tout simplement cette mention disparaisse dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il soit marqué qu'il n'y aura même pas d'article en fait marquant que l'Église est résolument contre la peine de mort en toutes circonstances. On peut imaginer, c'est-à-dire que...
Alors on peut imaginer, effectivement, c'est une évolution qui est due au contexte dans lequel on est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, je crois que le pape François ne veut plus qu'il y ait de prétexte en fait. Vous voyez, les catholiques américains, ils ont dit, mais dans le catéchisme, on dit que, etc. Aux États-Unis, clairement, on peut gérer quelqu'un qui est... une personne n'est jamais un danger pour la population. On peut la gérer, si vous voulez, une fois qu'elle est en prison, on sait la gérer. Donc je crois que l'enjeu du pape François, c'est qu'il n'y ait plus d'excuses. Voilà. Après, je crois qu'il y aura toujours des situations limites dans lesquelles, en conscience, on posera des actes qui ne sont pas forcément hyper adaptés, mais ça ne sera plus dans le catéchisme probablement.
Pour finir, j'aimerais qu'on parle de la notion de guerre juste. Alors, il s'agit pas, on pourrait faire une émission là-dessus, oui. Mais juste là, donc, on parle de gens qui sont condamnés et après, à l'issue de leur procès, et donc la peine est donc une peine de mort. Quid des situations où c'est de la légitime défense, ça relève de l'ordre de la légitime défense. Y a-t-il pour l'Église des guerres justes?
Alors,
ce serait une introduction à une prochaine émission.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous diriez?
Voilà. En fait, on va distinguer donc la notion de peine de mort où il y a un décalage, si vous voulez, dans le temps entre l'acte qui a été posé et la peine qui a été donnée. La notion de guerre juste ou la notion de légitime défense sont, on va dire, c'est une situation chaude. Je suis en train d'être agressé. Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Donc l'Église, alors là c'est aussi dans le catéchisme, et ça le pape ne l'a pas touché, donc l'Église nous dit, en fait il y a ce qu'on appelle les actes à double effet. C'est-à-dire, l'idée c'est, il y a un agresseur qui me met en danger, moi ou surtout quelqu'un dont je suis responsable. Et donc cet agresseur, moi je ne désire pas sa mort. Je vais tout faire, même peut-être pour le protéger de lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne le ferai pas au détriment de la personne dont je suis responsable. Et donc, si à un moment, je me trouve en situation de tuer l'agresseur malgré moi, mais pour protéger l'enfant, par exemple, que j'ai dans les bras, eh bien, voilà, cet acte est licite, on va dire ça comme ça, licite. Le pape François, d'ailleurs, avait appelé à cette guerre juste au Moyen-Orient contre Daesh. Donc ça montre bien qu'il est tout à fait au clair là-dessus. Voilà. Par contre, une guerre juste, ça suppose un certain nombre de critères. La doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église en donne 6. On ne va pas les énumérer. Mais en gros, il faut retenir qu'une guerre juste suppose une guerre proportionnée et surtout que tous les moyens possibles et imaginables étaient mis en œuvre par ailleurs. Et aussi que le drame soit un drame avéré dans le temps, très grave, et qui fait que il y a un moment, on n'arrive plus à le gérer, et donc j'ai une vie d'innocent, et là je suis dans une situation chaude, vous voyez, et je vais protéger les innocents. Mais voilà, je termine juste en disant, une guerre juste ne permet jamais d'aller, on va dire, être proactif par rapport au mal. C'est-à-dire, je peux pas dire...
Il n'y a pas de guerre préventive.
Exactement, il n'y a pas de guerre préventive. Je peux pas aller bombarder une ville en disant, peut-être que les bébés plus tard seront des soldats. Voilà, ça c'est pas possible. Voilà.
Dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause musicale. D'aucuns peuvent s'interroger sur le fait que le catéchisme de l'Église catholique soit corrigé ou qu'il évolue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est compréhensible? Je lisais en préparant l'émission, entre autres, que Benoît XVI avait fait supprimer en 2007 la notion de limbe. Donc pour ceux que ça évoquera un certain nombre de choses pour certaines personnes qui étaient présentes dans le catéchisme de l'Église catholique, est-ce que le catéchisme peut être amené à évoluer? Si oui, pourquoi?
Oui, tout simplement parce que il s'inscrit, encore une fois, c'est, si vous voulez, c'est une expression dans une époque donnée, dans une culture donnée, d'une foi qui, par contre, elle ne bouge pas. Voilà, Saint Vincent de Lérins, il donne cette image que je trouve très belle. Il dit, en fait, la foi chrétienne, si vous voulez, c'est des gènes. Les gènes, on les a toujours. Par contre, ces gènes, ils vont grandir dans un corps qui évolue dans le temps, dans l'espace. Et donc, ce corps évolue. Et le catéchisme, si vous voulez, est comme une mise en perspective de ce corps à chaque instant. Donc oui, il évolue sans arrêt. Mais sur le fond, jamais. Voilà.
On va faire une deuxième pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour continuer à parler pour cette émission donc Peine de mort, état des lieux. Cette fois on parlera donc de la mobilisation de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, entre autres auprès des personnes condamnées à mort, et cette ONG proposant à ses militants de correspondre avec ces condamnés qui sont dans les couloirs de la mort, entre autres aux États-Unis.
l'Église, Emmanuel Pella.
Peine de mort, état des lieux, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église en ce vendredi avec, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route autour du plateau au début de cette émission, Anne Denis, responsable de la commission peine de mort à Amnesty International, le père Arthur Deleff, curé de Montastruc, et le père Marcel Borier, recteur de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Alors, dans cette dernière partie d'émission, ça ne vous empêche pas d'intervenir, parce que vous avez été pour l'instant très bien élevé, vous ne vous êtes pas coupé la parole, mais voilà, c'est pas, comment dire, ça n'est pas une dissertation avec trois parties, et seulement comment dire, trois différents élèves, donc n'hésitez pas à intervenir, Père Arthur Deleff, dans cette dernière partie. Je voulais qu'on mette un coup de zoom, et par là même un coup de chapeau à l'action donc de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT. C'est donc une ONG créée en France en 1974, et on va dire ses principaux chevaux de bataille ou ses principaux combats, c'est le respect de tout être humain, pardon, qu'il soit libre ou prisonnier, particulièrement dans la lutte contre la torture, mais aussi pour l'abolition de la peine de mort, et c'est adjoint à ça un certain nombre de combats comme la défense du droit d'asile en France, ou plus récemment il y avait un rapport en mars 2016 intitulé L'ordre et la force, sur peut-être un usage parfois abusif de la force par la police et la gendarmerie française. Mais les deux grands combats sont donc la torture et l'abolition de la peine de mort. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots complémentaires à cette très brève présentation, Père Marcel Borier, qui présenterait un peu l'ACAT ?
Tout simplement, l'ACAT n'est pas un doublon d'Amnesty. L'ACAT travaille avec Amnesty, et Amnesty est souvent beaucoup plus en avance au niveau des informations, etc., que ne l'est l'ACAT. Mais il a semblé important de créer ce mouvement parce que nous avons une responsabilité par rapport aux chrétiens eux-mêmes, nos communautés. Alors, c'est un mouvement œcuménique. Dans le groupe ACAT dans lequel je suis, il y a des protestants, il n'y a pas d'orthodoxes actuellement, mais il y en a eu. Donc c'est un mouvement de chrétiens qui s'interroge aussi comment aider nos communautés chrétiennes et les chrétiens qui en font partie à prendre conscience du problème de la torture et aussi de celui de la peine de mort.
Voilà, parce que même s'il n'y a plus de torture en France, en tout cas, si elle n'est pas pratiquée, elle existe encore dans un certain nombre de pays dans le monde. Je n'ai pas en tête les chiffres, voire parfois dans des pays occidentaux. Voilà, on parle de torture blanche parfois, ou alors, évidemment, c'est tous les événements qui ont, comment dire, toute l'actualité qu'il y a eu autour des États-Unis et autour de Guantanamo, etc. Je voudrais surtout donc qu'on parle d'une initiative à l'intérieur donc de l'ACAT, qui est cette correspondance qui est proposée donc aux militants avec des, on en avait parlé il y a deux ans déjà à l'antenne, avec des gens qui sont dans les couloirs de la mort. Alors j'imagine que cette correspondance n'est pas proposée qu'avec des prisonniers aux États-Unis, mais en tout cas vous, c'est votre cas. Il y a maintenant trois ans, Père Marcel Borier, vous avez donc commencé une correspondance. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'homme avec qui vous correspondez?
Oui, alors le national de l'ACAT demandait des membres de l'ACAT qui pourraient correspondre en espagnol. Et donc je me suis proposé et on m'a donné un correspondant, Joey, mais qui est un latino-américain, qui s'appelle Joey Franco Garza. Et je corresponds avec lui depuis trois ans.
Alors, qui est-il? Où est-ce qu'il est? Dans quelle prison aux États-Unis? Pourquoi a-t-il été condamné?
Il ne refuse pas la condamnation qu'il a eue. Il a été condamné, il avait 27 ans, parce qu'il a tué quelqu'un. Au cours d'une espèce de bagarre, il a tué quelqu'un. Et actuellement, quand j'ai commencé à lui écrire, il avait donc 43 ans. Et il a un enfant qui a 15 ans, mais qu'il ne connaît pratiquement pas, puisqu'il a été arrêté quand sa femme était enceinte de 3 mois. Alors, il est né au Texas, il a 4 frères, 4 sœurs et une mère, mais comme il me dit dans une lettre toute simple, elle vient pratiquement pas me voir parce qu'elle a sa vie. Voilà. Alors, moi, j'étais très frappé par...
Vous souriez, mais c'est horrible comme phrase quand même. Vous souriez, mais c'est horrible comme phrase.
Oui, mais ça montre comment cet homme, qui avait 27 ans quand il a été arrêté, qui en a 43, donc maintenant il a 46 ans, 47 ans, a évolué dans sa sagesse. J'étais très frappé par sa sagesse. C'est très drôle, il y a une lettre où il m'écrit, Il me dit, voilà, j'ai reçu votre lettre cette semaine, mais je n'ai pas répondu tout de suite parce que je n'étais pas en forme et je ne voulais pas transmettre mes états d'âme et ma solitude à mes amis. Donc j'ai attendu d'être de nouveau bien pour vous répondre.
C'est de la sagesse ou c'est de la délicatesse? Parce que parfois, il faut
oui,
savoir confier ses peines.
C'est un souci des autres, quoi. Hein. Alors, pour moi, ma découverte, elle est double. D'abord, je n'avais pas conscience de ce que voulait dire le couloir de la mort. Je savais qu'il y avait des exécutions possibles aux États-Unis. Mais quand on pense que cet homme, Joey, est depuis pratiquement 20 ans dans le couloir de la mort, ça laisse tout à fait... on se demande comment c'est possible, quoi. Hein. Parce que, dernièrement, enfin, il y a cela...
Ça veut dire qu'en fait, il peut être, comment dire, il peut être exécuté à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'il vit en plus dans l'angoisse de l'exécution.
Il y a un an et demi ou deux ans, il y a deux ans, oui, on nous avait annoncé son exécution et la date de son exécution. Et puis finalement, nous avons appris que l'exécution avait été reculée parce que son avocat avait demandé des tests ADN de plus. Voilà. Mais donc cet homme est depuis l'âge de 27 ans en train d'attendre qu'on décide de sa mort. J'ai trouvé que c'était une découverte. Ça me fait penser à tous les condamnés des couloirs de la mort, quoi, qui attendent mais des années, des dizaines d'années, qu'une décision soit prise.
Père Arthur Delay, vous aviez un commentaire. Après, j'ai une question.
Oui, pour moi, c'est typique, si vous voulez, de nos sociétés occidentales. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'une prétention à une justice très construite, etc. Et donc, il y a plein de recours voilà, qui sont proposés. En même temps, en réalité, c'est une sorte de torture incroyable. Parce que quand vous apprenez qu'on va vous tuer, forcément, vous arrêtez de vivre. Enfin, en tout cas, c'est le premier moment, si vous voulez, de vous dire, de toute façon, la société ne me veut plus, je n'ai plus le droit de vivre. Et ça, c'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Enfin, comme vous ne pouvez pas vous projeter. Et en réalité, ça va durer 20 ans. Et donc en fait, c'est une sorte de destruction permanente de votre propre vie.
C'est probablement ce qu'on pourrait peut-être appeler de la torture blanche. Je ne sais pas si c'est comme ça que le qualifie Lacat, mais...
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Avec un phénomène quand même important pour les États-Unis, c'est que, étant donné le système judiciaire américain, enfin, sans oublier que chaque État a aussi ses précisions, hein, ce sont ceux qui ont le moins de moyens... qui sont le plus vite et sûrement condamnés. Donc ça va se
exécuter, vous voulez dire,
sur des Latino-Américains, sur des
à condamner, oui.
Sur des Africains, des Américains d'origine africaine, des Noirs, qui n'ont pas les moyens de se payer les avocats qu'il faut. Alors théoriquement, il y a des avocats commis d'office, mais qui ne connaissent rien aux affaires et puis qui les traitent facilement, quoi. Hein. Donc on a quand même ce constat pour les États-Unis, c'est que la plupart des gens qui peuplent les couloirs de la mort sont des pauvres.
Voilà, donc il fallait souligner cette initiative extraordinaire de Lacat, et j'imagine que Lacat cherche des correspondants, et donc n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous sentez un appel, à contacter Lacat, à en parler avec eux, et peut-être à vous proposer pour correspondre avec ces personnes, même si on imagine qu'il y a un certain nombre de précautions, que tout le monde n'est pas peut-être à même de porter ce type de correspondant. Je voulais juste finir en soulignant, non pas pour... faire une pirouette maladroite, mais je suis retombé sur un article, je l'ai cherché quand même, du Monde, du 21 janvier 2006, donc il y a bien longtemps, où dit détenu de la centrale de Clairvaux, qui est donc la prison en France, dit-on, où il y a le plus de condamnés à perpétuité, avait écrit une lettre ouverte, je crois adressée au président de la République, demandant à ce que soit rétablie la peine de mort, considérant que leur sort était tout à fait atroce et inhumain. Il disait la chose suivante: assez d'hypocrisie dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté. Nous préférons encore finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu. Qu'est-ce que ça vous évoque peut-être, Arthur Delay, et on va finir là-dessus, sur on peut avoir facilement bonne conscience dans nos sociétés et en fait... les choses sont... Ça ne veut pas dire que... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rétablir la peine de mort, hein, mais que les choses sont un peu plus compliquées.
Exactement, que les choses sont compliquées. Voilà, l'exemple... C'est vrai que la peine de mort sera toujours une tentation, et moi je prends l'exemple toujours de nos djihadistes. Vous savez, on a 700 Français djihadistes en Irak, et voilà, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a donc une personnalité politique de premier plan qui a dit ben, s'il meurt à Raqqa, tant mieux. Ça veut dire, voilà, nous on ne va pas les condamner à mort, mais en réalité on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui les tue à notre place. Donc ça c'est une tentation. De l'autre côté, simplement de mettre les gens en prison à perpétuité, effectivement c'est pas forcément une situation très facile. Voilà, mais ça, si vous voulez, le fait de proposer une prison à perpétuité ouvre la possibilité à une liberté de s'exprimer, voilà, et du coup de changer, de faire quelque chose de beau de sa vie. Une fois qu'on a tué la personne, c'est fini, quoi. Il n'y a plus cette possibilité d'évolution. Voilà, moi j'aime bien cette phrase, bon, peut-être, voilà, pour moi ça serait mon mot de la fin, entre guillemets, de l'abbé Pierre qui dit notre temps sur cette terre, c'est le temps qui nous est donné pour apprendre à aimer. Eh bien, quelqu'un qui est en prison à perpétuité, il a cette possibilité-là encore. Une fois qu'on l'a tué, c'est fini.
Merci beaucoup à tous, Mefti, à Amnesty International, à l'ACAT, et merci à vous d'être venus en plateau ce matin donc, pour nous parler, nous faire un point donc, sur la peine de mort. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.